Bonjour à tous, bienvenue dans Confidentiel sur RTL. On est ensemble pendant une heure pour découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Que se cache-t-il derrière ce que l'on voit tous ? Souvent, pour expliquer les grands destins, il faut aller chercher les failles. C'est exactement le cas de cet acteur, réalisateur, scénariste, prince du cinéma français, j'ai nommé Guillaume Canet. La plage de Danny Boyle avec DiCaprio, un César à 33 ans, pour Ne le dis à personne en tant que réalisateur, puis Les petits mouchoirs, 5,5 millions d'entrées au cinéma, tout ça, c'est lui. Mais Canet, c'est aussi un grand angoissé, ultra perfectionniste, qui avoue qu'il n'a pas peur du temps qui passe et qu'il n'a jamais été aussi apaisé qu'aujourd'hui. Ce mercredi, dans les salles, il tiendra l'affiche du nouveau film de Stéphane Brisé, Hors saison. Il y est incroyablement attachant de sincérité et de vérité. Un film sur la vie et surtout sur les choix de vie. Pourquoi prenons-nous un chemin un jour plutôt qu'un autre et les conséquences irréversibles que cela peut avoir. Pour ce numéro exceptionnel, l'acteur est là. Guillaume Canet, au micro de Son Confidentiel, c'est maintenant. On est le 9 juin 2023 sur la côte atlantique. C'est là que se tient un événement majeur du monde de l'équitation, le Jumping International de la Baume. Tous les ans, les meilleurs cavaliers et les meilleurs chevaux de la planète s'affrontent sur ce parcours de saut d'obstacles. Gros rendez-vous immanquable du circuit mondial, c'est le Roland-Garros de l'équitation. Parmi les 130 inscrits, ce jour-là, l'un d'entre eux attire plus particulièrement l'attention. Il a sa veste noire, ses bottes et sa bombe vissée sur la tête. On le reconnaît à peine. Mais oui, c'est bien lui, l'éternel golden boy du cinéma français, Guillaume Canet. À 50 ans, l'acteur et réalisateur qui vient de sortir son Astérix et Obélix L'Empire du Milieu a décidé de se consacrer en ce jour d'été à son autre passion, le cheval. La compétition hippique, c'est son dada depuis toujours à Guillaume. Et cette compétition de la boule, il la connaît très bien. Quand il était enfant, il passait tous ses étés ici à monter à cheval. Le saut d'obstacle, il en fait depuis qu'il est tout petit. En ayant grandi dans le haras familial, près de Rambouillet, le premier rêve du petit Guillaume, son rêve de gosse, c'était de devenir champion d'équitation. Bien avant le cinéma, bien avant la notoriété et le succès. Aujourd'hui encore, malgré une carrière hors norme sur laquelle on va revenir, bien sûr, c'est dans les box qu'il vient se ressourcer entre deux tournages. Un peu comme le grand Jean Rochefort, son mentor, le faisait avant lui. Alors en ce jour de juin 2023, devant la crème de la crème du monde hippique, Guillaume Canet est comme un enfant. Il est très excité à l'idée de replonger dans l'adrénaline du haut niveau. La compétition, il l'a déjà connue adolescent dans l'équipe de France Junior. Et puis le sort a décidé qu'il prendrait un autre chemin. Guillaume Canet n'est plus un poulain. Mais qu'importe, il fait tout pour atteindre ses objectifs. C'est un travailleur acharné, obsessionnel, méticuleux, à tel point qu'il peut en tomber malade, vous le verrez. Et ça va parfois même jusqu'à la dépression. Surtout qu'en matière d'équitation, l'acteur-réalisateur a un goût d'inachevé. Un rendez-vous manqué avec son destin. Il voulait devenir un grand cavalier. À l'âge de 14 ans, c'est ici même, à la Baule, qu'il a fait une chute mémorable avec sa première jument. Sa première chute est sans doute sa plus traumatisante. Le jeune cavalier est alors en compétition. Ses parents ne sont pas là. Dans la journée, sur la plage, sa monture part soudainement au triple galop. Canet est impuissant. Il ne peut plus l'arrêter. C'est alors qu'elle se prend les sabots dans un trou de sable. Voilà que le cheval et Guillaume sont violemment projetés au sol. La jument est grièvement blessée. Dans la nuit, elle fait une hémorragie interne. L'adolescent doit prendre seul la décision de l'euthanasier. Avoir un droit de vie ou de mort sur un animal à 14 ans, imaginez le moment. De son propre aveu, ce premier accident de la boule est un véritable choc émotionnel pour Guillaume, on le comprend. Une douleur profonde qui aura des répercussions sur la vie entière du cavalier comédien. Alors quand il revient ici, face à ce parcours de saut d'obstacle, 36 ans plus tard, c'est quelque part un peu pour conjurer le sort. Guillaume Canet, cavalier seul, bienvenue dans ce confidentiel exceptionnel en présence de l'acteur. Really too late to call so. Avant d'être un cavalier hors pair et un réalisateur césarisé, Guillaume Canet est avant tout un gamin de la terre, originaire des Yvelines. Son père, Philippe, travaille d'abord dans l'immobilier, mais il rêve secrètement de chevaux. À Plaisir, là où vit la famille Canet, le petit Guillaume accompagne tous les mercredis ses deux grandes sœurs au Poney Club. Mais bon, tourner en rond avec son cheval dans le manège, ça va un temps. Guillaume est un enfant plutôt casse-cou, il a une dizaine d'années quand il découvre le saut d'obstacle. Ça, en revanche, ça lui plaît tout de suite. Il s'y essaye et gagne très rapidement une première compétition au club. Guillaume prend un plaisir immédiat dans ce mélange d'anxiété et d'adrénaline. Le virus du père vient de contaminer le fils. En plus, il se montre très vite talentueux. Philippe se met à rêver d'en faire un cavalier professionnel. Jusqu'au jour où papa Canet emmène toute sa petite famille au milieu d'un champ de colza pour annoncer « Maintenant, on va vivre ici ». Philippe Canet vient de s'improviser éleveur de chevaux. Guillaume a 14 ans quand ses parents font le grand saut. Il s'endette et monte un haras aux portes de la forêt de Rambouillet. Adolescent, celui qui n'est pas encore une star découvre donc la campagne, les nuits en forêt et le brame des cerfs. Il se sent bien, dans son élément. À la maison, son père a une petite caméra Super 8 où chaque souvenir d'enfance est consigné sur pellicule. Guillaume adore ces moments en famille où on éteint la lumière, on allume le projecteur et on se laisse emporter par la nostalgie sépia des moments perdus. Guillaume prend vite en main la petite caméra. Surtout que le soir, on l'a tous fait, vous allez l'imaginer, quand il est censé être au lit, il regarde discrètement depuis l'escalier les films qu'on passe à la télé. Et ça lui donne des idées. À l'école, Guillaume s'illustre plus par ses 400 coups que par ses résultats scolaires. Et ses bêtises ont déjà des airs de scènes de cinéma. Un jour, Nicolas Hulot, qui présente l'émission d'aventure Ushuaïa à la télévision, vient dans son lycée. Guillaume se met en tête d'organiser, écoutez bien, une séquence évasion en référence à la séquence émotion de l'émission. Et il convainc tous ses camarades de sortir de la classe et d'escalader la grille pendant que lui les filme depuis l'extérieur. Une bravade qui lui vaudra un abonnement à la salle de colle. Et à la grande déception de ses parents, Guillaume n'obtiendra pas son bac. Heureusement qu'il y a le cheval, se dit Philippe, qui mise plus que jamais sur les talents de cavalier de son fils. Car le week-end, l'énergique adolescent n'a qu'une chose en tête, le championnat de France junior. C'est là, dans l'ambiance de la compétition, des clubs hippiques et des selleries, qu'il va avoir un coup de cœur amoureux pour une jolie cavalière, elle aussi future comédienne, une certaine Marina Hans. L'avenir du jeune Guillaume Canet semble alors tout tracé. Ce sera le cheval et la compétition. Oui, mais voilà, un autre accident. Souvenez-vous, celui avec sa première jument quand il avait 14 ans, va avoir raison de son ambition de cavalier, mais va lui ouvrir une toute autre voie. On est en 1991 à Mesquer, en Loire-Atlantique, pas loin de la Baule. La Baule, c'est là où, 4 ans plus tôt, Guillaume Canet avait connu un premier accident douloureux sur la plage avec son cheval. Cette fois, le drame se produit en pleine compétition, la terreur de tout cavalier. À 18 ans, le jeune Canet est un talent prometteur qui saute à haut niveau chaque week-end. On est donc en pleine épreuve, lui et sa monture Rimsky galopent pour passer un obstacle. Quand soudain, Rimsky s'élance trop tôt sur une double rangée de barres et atterrit en plein milieu. L'animal, qui pèse aux alentours de 400 kilos, et son cavalier tombent à terre. Mais en se relevant, le cheval marche sur Guillaume et l'écrase complètement. Il a tout le côté droit du corps cassé, mains, poignets, épaules, pieds, genoux. Une catastrophe. Au-delà de cet accident et de la douleur physique, c'est carrément la compétition qui s'arrête pour Canet. Ses rêves de carrière dans l'équitation s'envolent. Une grosse première désillusion. Pour continuer, pour progresser encore, il faudrait investir dans un nouveau cheval. Le sien n'a clairement pas le niveau et ses parents, pas forcément les moyens d'en acheter un autre. Et après tout, ce rêve de cheval, ne serait-ce pas surtout celui de son père? Lui, des rêves, il en a plein d'autres dans la tête. Poursuivre coûte que coûte, ou mettre fin à sa jeune carrière? Guillaume Canet va devoir trancher, comme il l'explique lui-même au micro de Confidentiel.
Il y a eu à 18 ans cet autre accident qui était là pour le coup assez grave où je me suis pris du cheval sur moi, qui s'est relevé sur moi, donc j'avais les trous de crampons dans le dos, dans la main, je me suis pété tout le côté droit. Ça faisait quelques années déjà que je faisais des petits films à la maison comme ça en Super 8 avec la colleuse dans ma chambre, avec la caméra vidéo, et j'étais fasciné par la réalisation. Et c'est là en fait que j'avais eu effectivement à 14 ans quand j'ai perdu ma jument de concours où j'avais eu un vrai choc émotionnel à devoir l'euthanasier alors que mes parents étaient pas là, j'avais dû prendre la décision, ce qui est à 14 ans hyper dur d'avoir le droit de vie ou de mort sur un animal. Et du coup je m'étais dit je deviendrai cavalier professionnel pour elle et tout, et puis bon voilà, on grandit et puis on se rend compte que finalement j'avais envie d'ailleurs et je suis parti à Paris et j'ai voulu me lancer dans ce métier. Donc ça a été vraiment un truc, la fracture, c'est le cas de le dire, enfin cet accident a été vraiment un truc de prendre comme un signe et de dire ok stop, je suis pas fait pour ça, c'est pas le métier que j'ai envie de faire en fait.
Parce que le métier que Guillaume a vraiment envie de faire, c'est du cinéma. Et ironie du sort, ce sont les chevaux et le haras familial qui vont, contre toute attente, lui en donner l'occasion. On est en 1997 à Gambay, près de Rambouillet. 6 ans se sont écoulés depuis le terrible accident de cheval qui a mis fin à sa carrière de cavalier. Guillaume Canet s'est inscrit au fameux Cours Florent. Et en attendant de tourner lui-même ses premiers films, car c'est la réalisation qui l'intéresse, il enchaîne les castings. Et le week-end, il donne toujours un petit coup de main à ses parents ou haras familiaux. Un jour, un éleveur appelle. Il veut rendre visite à sa jument qui pouline chez les Canet. Cet homme, c'est Jean Rochefort. La France entière le connaît en tant qu'acteur, mais il est surtout un mordu de cheval. Il ne vit que pour eux. Il en élève, en fait concourir. Au point qu'il répète à qui veut l'entendre que s'il continue le cinéma, c'est uniquement pour payer l'avoine de ses protégés. Rochefort et Canet se connaissent de loin. Depuis qu'il a 13 ans, Guillaume croise régulièrement Jean sur les terrains de concours et secrètement, il l'admire. C'est même à travers lui qu'il a développé le fantasme de devenir acteur. Ce jour-là, dans l'ambiance si particulière des écuries, les deux passionnés de chevaux se parlent vraiment pour la première fois et sympathisent même. « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» lui demande Rochefort. « J'essaie d'être acteur », lui répond Canet. « Ah, ça ne m'étonne pas, vous avez une gueule à faire ça !» Rochefort a tout de suite le petit Canet à la bonne et il enchaîne. « Eh bien justement, je vais tourner dans un film de Philippe Haïm là et on cherche un petit jeune. » Rochefort vient de lui mettre le pied à l'étrier. Guillaume Canet va rencontrer le réalisateur et il va le convaincre de le prendre. Barracuda sera son premier film de cinéma et ce rôle va tout changer pour lui. À partir de là, l'aîné prendra le plus jeune sous son aile. Jusqu'à la mort de Jean Rochefort en 2017, les deux hommes partageront une grande complicité et une profonde tendresse l'un pour l'autre.
Bah, il me manque énormément, je pense très souvent à lui. J'ai souvent sa voix que j'entends. Ses appels, souvent le dimanche soir, me manquent. Il m'appelait souvent le dimanche soir. Après, quand il y avait un film qui sortait, il m'appelait pour... Il me dit « Chonchon ». Il m'appelait Chonchon, il me disait je viens au rapport et il me racontait son sentiment sur le film que j'avais fait et son avis, voilà, et c'était toujours très très intéressant parce que il y avait des moments très positifs et puis il y a des moments ils ont dit non tu t'es pas cassé et où il pouvait être très critique mais c'était toujours avec beaucoup de bienveillance et il avait voilà un regard sur mon travail et je me rends compte du temps qu'il a pris pour moi.
Grâce à Barracuda, grâce à Jean Rochefort, Guillaume Canet va se lancer au triple galop, à l'assaut du cinéma français. Des années 90, c'est vraiment le moment de la montée en puissance pour Guillaume Canet. Il multiplie les tournages. En 1999, il tourne aux côtés d'un autre monument français, Jean Yann, dans « Je règle mon pas sur le pas de mon père ». Et le voilà repéré par Hollywood. Tout va très vite, trop vite pour Guillaume, qui ne s'attendait pas à tout ça si rapidement. Lui, son truc sur les plateaux entre deux prises, c'est de passer du temps avec les techniciens et d'apprendre. La caméra, la lumière, le son, le montage, la direction d'acteur, il veut tout apprendre. Il récupère même des bobines pour faire avec ses potes ses premiers courts-métrages. Il en a déjà fait 3, quand on lui propose un rôle dans La plage de Danny Boyle aux côtés de Leonardo DiCaprio, la star de Titanic, le film, je le rappelle, qui vient de faire tomber tous les records du box-office. La plage avec DiCaprio, c'est un coup de projecteur énorme pour Canet, qui jusque-là voyait sa carrière d'acteur plutôt comme un poste d'observation idéal avant de passer à la mise en scène. Canet l'angoissé, Canet l'obsessionnel est littéralement habité par cet objectif. Alors en 2000, quand La plage explose à son tour dans les salles du monde entier et que Guillaume Canet éclate au grand jour, il vit en fait assez mal ce succès. Le comédien dira plus tard que ce film, qui se passe dans les décors paradisiaques de la Thaïlande et où il aura passé son temps en maillot de bain, aura été l'un des plus chiants à faire de sa carrière. La plage a beau le rendre célèbre, il ne supporte pas l'image de beau gosse qui l'enferme dans des rôles de minet. Il est temps de reprendre le cap de sa carrière et de cavaler vers son objectif premier, la réalisation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les débuts du cinéaste Guillaume Canet sont remarqués. Avec Mon idole, qui sort en 2003, le jeune réalisateur ébauche son style. Son écriture, sa maîtrise technique, notamment ses longs plans séquences, sa capacité de travail, tout ça impressionne. Mais ce qui va faire la patte Canet, tout de suite, c'est sa bande. Que ce soit du côté des comédiens ou des techniciens, Canet sait s'entourer. Dès ce premier film, apparaissent son co-scénariste Philippe Lefebvre, son grand pote Gilles Lellouch, Diane Kruger, qu'il vient d'épouser, et François Berléand, à qui il a confectionné un rôle de producteur cynique sur mesure. Avec Mon idole, Canet commence à dévoiler le cinéaste prometteur et ambitieux qu'il est. Sur le plateau, le jeune comédien s'impose comme le patron, bien bien loin de l'image de Minet qui lui collait jusque-là à la peau. Canet est un fonceur et il n'a pas fini de le prouver. Pour son prochain film, l'ancien cavalier compte en effet frapper un grand coup. Il a décidé d'adapter un best-seller de l'écrivain américain Harlan Coben. Hollywood est intéressé, mais qu'à cela ne tienne, Guillaume Canet a jeté son dévolu sur le livre. Hors de question qu'il lui échappe. Ce film, il l'a eu instantanément en tête quand il a lu le livre. Et c'est cette vision du film, justement, qui va convaincre l'auteur de lui confier l'adaptation. Ce film, c'est Ne le dis à personne, un tournant dans la carrière de réalisateur de Guillaume Canet. Là encore, il s'entoure de sa bande, il l'élargit même. En plus des Gilles Lellouch, François Berléand ou Philippe Lefebvre, on compte désormais au générique Jean Rochefort, Christine Scott-Thomas, Nathalie Baye ou encore André Dussolier. Il fait même appel à son ami ostréiculteur du bassin d'Arcachon, Joël Dupuche. N'est pas du tout un comédien, mais peu importe, pour Canet, Joël a une gueule à faire du cinéma. Diane Kruger, elle, n'est plus là, le couple est en plein divorce. La période est éprouvante pour Guillaume. En même temps qu'il gère sa situation personnelle, il doit s'atteler à un projet d'envergure, clairement le plus ambitieux de sa jeune carrière. Un projet aussi dans lequel il a réussi à rassembler des grands noms du cinéma français. Cela dit, l'énergique metteur en scène qu'est Canet a persuadé les producteurs de donner le premier rôle à un comédien dont personne ne voulait, François Cluzet. Il s'est battu bec et ongle pour que ce soit lui qui incarne ce personnage de médecin sanguin qui ne se remet pas de la mort de sa femme. Un pari osé, mais qui va payer. Avec Ne le dis à personne, qui se passe en partie dans le milieu hippique, Canet en profite pour faire un clin d'œil plus personnel. Écoutez, le réalisateur s'est en effet donné le rôle d'un cavalier décédé que pleure un père joué par Jean Rochefort. Comme s'il voulait se promettre qu'avec ce film, il tirait un trait définitif sur ses rêves de chevaux et de compétition, et ainsi mieux enfourcher sa carrière de cinéaste. Ce deuxième long-métrage, qui a pour ambition de rivaliser avec les standards américains des films d'action, va faire sensation à sa sortie en salle en 2006. Plus de 3 millions de spectateurs iront voir Ne le dis à personne. La profession va même l'adouber. À seulement 33 ans, Guillaume Canet vit déjà un très grand moment dans sa carrière. Il obtient le César du meilleur réalisateur. En seulement 2 films, l'ancien cavalier a prouvé qu'il était bien plus qu'un jeune premier, un cinéaste surdoué. Et cette envie viscérale de faire du cinéma ne va pas s'arrêter là, évidemment. Un projet plus personnel va bientôt l'occuper, un projet dont sa bande, vous me voyez venir, sera même le sujet central. Exténué par le tournage de Ne le dis à personne, pendant lequel, il faut le dire, il a tout donné, Guillaume Canet est tombé malade. Une septicémie doublée d'un staphylocoque doré. Pendant son hospitalisation, en plein été, eh bien personne ne lui rend visite. Il se retrouve complètement seul. Tous ses amis sont en vacances, et bien plus grave, l'un d'entre eux se tue dans un accident de moto. Cette histoire, un peu triste, je vous l'accorde, c'est le point de départ de son nouveau film qui va s'appeler « Les petits mouchoirs ». Et sur ce tournage, le cinéaste de bande va montrer un tout autre visage. Pour ce nouveau projet, Canet fait là encore appel à son équipe d'amis. Lelouch, Lafitte, Cluzet, Dujardin, avec qui, pour l'anecdote, il était à l'école primaire, et les ont rejoints Benoît Magimel et Marion Cotillard, sa nouvelle compagne. Mais malgré cette bande qui l'entoure sur ce tournage, Canet se sent en fait seul comme jamais. Le décor est plutôt chouette, c'est l'été, dans le bassin d'Arcachon, et la joyeuse troupe a un peu de mal à se mettre dans le bain. Les comédiens déconnent à n'en plus finir, ils ne s'impliquent pas autant que le réalisateur le souhaiterait. Ce long métrage a beau avoir l'apparence d'un film de vacances, en réalité, il parle avant tout du mal-être de son réalisateur. Guillaume Canet ne l'avouera que bien plus tard, mais ce tournage est une épreuve pour lui. Un moment, il doit même piquer une gueulante alors que ses acteurs et amis plantent une scène en mer. Il faut leur remettre un peu les pendules à l'heure. Les derniers jours, une vraie dispute éclate même avec l'un des comédiens. Bon, vous connaissez la suite, beaucoup plus joyeuse. Cette histoire de potes qui se déchirent sera un énorme carton avec 5,5 millions d'entrées en salle. Mais les petits mouchoirs et les années qui suivront seront surtout l'occasion pour Guillaume Canet d'entamer une mue, à la fois en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'homme.
Non, c'est fini les bandes. Non, j'ai des très très bons amis. C'est que des fois, on s'investit beaucoup justement pour des choses et pour des gens et créer une synergie et un groupe. Et ça demande beaucoup beaucoup d'énergie. Et en fait, on se rend compte que les gens mènent quand même beaucoup aussi leur barque. Et c'est normal, c'est pas du tout un jugement. Hein. Et les gens, au moment, n'ont plus envie aussi d'être assimilés à cette bande. Et ce qui est totalement compréhensible. Et du coup, je pense que j'ai pris plaisir aussi à un moment à me retrouver avec moi-même aussi. Et ça, c'est vraiment agréable, et de pas être de faire les choses aussi un peu pour moi.
Avant de tirer sa révérence comme chef de bande, Guillaume Canet donnera néanmoins une suite à son film devenu culte, Nous finirons ensemble. L'heure est venue pour le réalisateur, mais surtout pour le comédien, de remonter en selle et de la jouer cavalier seul. On est en 2012, dans le sud de l'Espagne. 2 ans après la sortie des Petits Mouchoirs. Guillaume Canet, veste noire et bombe sur la tête, monte un magnifique cheval noir et racé. La monture et son cavalier s'apprêtent à sauter un obstacle au galop. Ça nous rappelle quelque chose. Le couple s'élance au-dessus des barres et les passe, avec succès. avant que le réalisateur ne crie
« Coupé !»
Oui, on est sur le tournage du film « Japlou » de Christian Duguay, où le décor des Jeux Olympiques de Séoul de 1988 a été reconstitué. La mise en scène, lui, Guillaume Canet l'a quelque peu mise de côté. À vrai dire, le tournage aux États-Unis de son dernier film, Blood Ties, l'a complètement lessivé, physiquement et émotionnellement. Au point qu'il a carrément pensé à arrêter le cinéma. En quatre films, lui qui met toute sa passion, toute son énergie pour créer des œuvres habitées, à New York, il s'est confronté à une industrie du cinéma hollywoodienne qui l'a complètement vidé. Sauf qu'à la même époque, il reçoit un scénario. Un scénario qui va tout changer. Celui de l'histoire d'un cavalier, Pierre Durand, et de son cheval, Japlou. Cette histoire, Guillaume Canet la connaît très bien. En 1988, il était devant son téléviseur pour assister à leur incroyable épopée olympique à Séoul. Autant dire que ça le touche en plein cœur. Sauf qu'il y a un hic, le scénario, lui, ne lui convient pas du tout. Il veut bien faire le film, mais à condition qu'il reprenne le texte. Deal. Et lors de l'écriture, ce qui le frappe, c'est que le destin de ce champion ressemble beaucoup plus qu'il ne le pensait au sien. Pierre Durand, comme lui, a grandi dans le haras familial. Comme lui, son père caressait le rêve d'en faire un champion d'équitation. Et comme lui aussi, Pierre Durand s'est détourné du cheval pour entamer une brillante carrière d'avocat. Avant d'y revenir, irrémédiablement attiré par l'appel des boxes, pour, contre toute attente, entrer dans la légende de son sport. Et pour coller encore un peu plus à son histoire personnelle, qui de mieux pour incarner l'épouse de Pierre Durand, elle aussi cavalière émérite, que Marina Hans, son amour de jeunesse. Avec cette histoire magnifique, Guillaume, à 40 ans, renoue donc avec ses rêves de gamin. Alors après des années passées loin des paddocks, le voilà de nouveau à califourchon sur des étriers à sauter des obstacles. Canet n'a qu'un mois et demi pour se remettre en selle. Comme à son habitude, vous avez compris, il est encadré par des professionnels d'exception et il donne tout. Pour Canet, il est inconcevable d'être doublé sur ce film. C'est un nouveau très beau défi à relever. Le comédien s'entraîne jusqu'à 8 heures par jour. Il saute des barres de plus en plus hautes, jusqu'à atteindre 1,50 m, soit le niveau d'un champion d'Europe. Si bien qu'à la fin du tournage de Japlou, Guillaume Canet se retrouve meilleur qu'au moment où il a arrêté le jumping. Le mordu de cheval fait alors son comeback dans la vraie vie. Il reprend une licence pro d'équitation et la compétition. En 2017, il remporte même le Grand Prix de Chantilly. Le cheval est comme une renaissance pour ce cinéaste un brin angoissé. Il renoue avec l'adrénaline de la compétition. Ça lui fait beaucoup de bien. Et il retrouve alors une relation quasi existentielle avec ce sport.
C'est le rapport à l'animal déjà, évidemment, au cheval. Et puis effectivement, la compétition à haut niveau, la petite appréhension qu'on a aussi avant de rentrer sur une piste avec des grosses barres. Et puis tout ce que j'ai pu faire comme sport, comme ça, qui amène une certaine adrénaline. Et je pense que ça m'amène ailleurs en fait. Ça m'emmène pendant quelques minutes, secondes, ça m'emmène ailleurs de mon quotidien. Et ça me fait lâcher... Beaucoup de tension aussi, et on se sent foncièrement vivant.
Guillaume Canet a besoin de se sentir vivant. Il est grand temps de prendre du recul avec le cinéma. À 40 ans passés, la nouvelle génération lui renvoie une image de vieux comédien un peu plan-plan et pas très rock'n'roll. L'humour et l'autodérision, ça va justement être le sursaut du réalisateur qui va prendre de plus en plus de distance avec sa bande et cela jouait cavalier seul.
Nous sommes en guerre.
On est au printemps 2020. Ce printemps 2020, tout le monde s'en souvient. Guillaume Canet est lui en pleine préparation de la super production Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. La pandémie a mis le film en stand-by et c'est très dur à vivre. Il bouillonne, Guillaume. Au départ, le réalisateur met ce confinement forcé à profit pour avancer sur son film. Sauf que cette période si particulière se prolonge et que Canet, hyperactif, qui comme beaucoup tourne un peu en rond, doit s'occuper. Les après-midi bricolage chez lui, ça va un temps, mais ça suffit plus. C'est le moment où il dit avoir eu une fulgurance.
Je me suis réveillé un matin et sans aucune explication, je suis descendu C'était matin très tôt, mais on dormait, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit lui. C'est trois lettres. Mais réellement, ça pourrait vraiment être un débard de bouquins ou de films mauvais. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ces trois lettres lui. Et j'ai commencé à m'adresser à cette personne. C'est-à-dire ce connard, comme je l'appelle, qui m'a habité pendant très longtemps, trop longtemps, et qui me tirait vers le bas, qui me faisait de moi cette personne insatisfaite tout le temps, très dur avec moi-même, très exigeant. Et j'avais besoin à un moment de m'adresser à lui, en fait, en disant, mais à un moment, il faut que tu me laisses vivre, quoi. Il faut que tu me laisses avancer dans ma vie et tu peux pas me tirer vers le bas comme ça constamment. Et puis je savais pas du tout où ça allait me mener. Je pensais après que ça allait peut-être être une pièce de théâtre. Et puis finalement c'est devenu un film où j'ai rajouté des choses. Encore une fois, je précise parce que les gens ont tout mélangé en pensant que je parlais de mes histoires amoureuses, ce qui n'est pas le cas.
Allez-y. Vous l'avez fait, mais si vous voulez refaire une fois.
Mais
c'est une fiction.
Oui, c'est totalement une fiction, mais dans laquelle j'ai pu parler de ce double. Et je trouvais qu'en plus, l'exercice cinématographique au niveau du style était intéressant, de jouer les deux personnages et tout. Et donc voilà, c'est devenu un film. Mais j'aime vraiment foncièrement ce film. Ça a été une fulgurance. Je l'ai écrit en 3 semaines, je l'ai tourné en 4 semaines. Et ça n'a pas été une dépression, mais je pense que ça a été une vraie analyse pour le coup.
Avec le film Lui, le cavalier frondeur, le chef de bande angoissé, révèle une face encore plus sombre de sa personnalité. Il est bien loin, le temps de Rock'n'Roll, son précédent film, où Canet faisait preuve d'autodérision quand il évoquait sa crise de la quarantaine, se moquait de son couple et de son nouveau statut de Monsieur Cotillard. Guillaume Canet assume désormais sa solitude, son côté sauvage, un peu ours. C'est cette même solitude et son regard amusé sur le fameux connard avec qui il cohabite qui va lui servir dans Hors saison de Stéphane Brisé, en salle ce 20 mars. Dans Hors saison, Guillaume incarne un acteur connu, en plein burn-out, qui vient se requinquer dans une thalasso bretonne et qui se retrouve seul face au vide de son existence. En renouant avec l'autodérision, le comédien excelle de sincérité. Guillaume Canet semble ne plus attendre du cinéma qu'il le sauve de ses angoisses. Il a simplement retrouvé le temps de vivre. Car c'est plutôt dans l'existence qu'il trouve les solutions les plus simples pour aller mieux. Aller mieux. Guillaume Canet l'angoissé, Guillaume Canet le fonceur, Guillaume Canet le rieur. Il semblerait qu'il y soit finalement parvenu. Sa passion pour le cheval y est clairement pour quelque chose, comme thérapie sûrement. Comme apprentissage surtout. Lui qui aura passé tellement de temps enfant à se remettre en selle après avoir chuté, une première, puis une deuxième fois, n'est plus vraiment à sa près. Une carrière au cinéma, la vie même, n'est-ce d'ailleurs pas autre chose que ça? Un grand parcours d'obstacles? Ses échecs ont été finalement ses meilleures expériences. À ce jeu-là, le jeu de la vie, Guillaume Canet, le cavalier, a très certainement une bonne longueur d'avance sur le chemin de l'apaisement.
Toi qui aimes le sens des affaires, toi qui souffres de tes dérouteurs, je
Confidentiel.
RTL.
Ophélie Meunier.
Bonjour Guillaume Canet.
Bonjour.
Bienvenue dans Confidentiel sur RTL. Guillaume Canet, c'est la plage, jeu d'enfant, mon idole, ne le dit à personne, les petits mouchoirs, Japlou, Joyeux Noël, Rock'n'Roll, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, je ne vais pas tous les citer, multi-récompensé, césarisé. Vous êtes un prince dans le cinéma français, Guillaume Canet, mais oui, il y a encore des gens qui vous font rêver, qui vous font envie. Je vous cite, « Cela faisait des années que je rêvais de tourner avec Stéphane Brisé. Équipe géniale, scénario sublime, en duo avec la merveilleuse Alba Rohrwacher. Je suis très fière de jouer dans ce magnifique film. » Bah dis donc.
Ouais.
Tout ça, ce film hors saison.
C'est toujours très très agréable de vivre une belle aventure avec un metteur en scène qu'on admire, avec qui on a envie de travailler depuis très longtemps, ce qui était le cas. D'ailleurs, j'avais un rapport avec lui très étrange parce que on se connaissait pas, mais on échangeait beaucoup par texto. Il a eu la gentillesse un jour de m'envoyer un message suite à un film que j'avais fait. Et du coup, moi, j'ai suivi aussi ses films. On s'est invité aussi l'un et l'autre aux projections de presse des fois que l'on avait. On allait se fondre comme ça dans la salle pour essayer de voir le film et le travail de l'autre. Et c'est quelque chose de très appréciable et qui est assez rare dans le métier, dans le cinéma français, en fait. C'est un réalisateur qui est un cinéaste d'auteur, si on peut appeler ça comme ça. Après, c'est compliqué toujours de donner des noms comme
mettre
ça.
Mettre dans des cases, mais ouais.
Ouais, mais dans des cases, mais c'est quelqu'un d'extrêmement éclectique et qui s'intéresse à toutes les formes de cinéma, au cinéma populaire, à plein de formes de cinéma. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude, d'ailleurs, de dire aux gens, quand il aime leur travail. Et ça, je trouve ça, très appréciable dans un métier qui se regarde quand même beaucoup le nombril.
Quelqu'un d'humain, quoi, en fait.
Ouais. Donc j'étais très heureux de tourner avec lui, et c'est vrai que voilà, j'ai fait la rencontre d'Alba qui est extraordinaire. Mmh. Et puis le scénario, tout ce qu'on avait à jouer. Je trouve que c'est un film qui est dans la lignée des grands films de Sauté, de tous ces films-là, et c'est un film qui reste, et je pense qu'il va rester.
Et ça nous manque, les films de Sauté, beaucoup. Enfin bon, on peut encore les voir, mais en tout cas des nouveaux. Alors, Hors Saison sort ce mercredi 20 mars dans les salles. Voilà l'histoire, quand même, pour nos auditeurs. Vous êtes Mathieu dans le film. Alors, c'est un prénom, en fait, qu'on n'entend jamais. Mais bon, en tout cas, vous êtes Mathieu. Mmh. Vous êtes un acteur très connu, qui a beaucoup de succès. Vous frôlez la cinquantaine. Bon, ben, jusque-là,
tout va bien.
C'est à peu près vous. Dans le film, vous êtes marié avec la présentatrice star du JT, qui est jouée par Marie Drucker, mais qu'on ne voit jamais, on entend sa voix. Évidemment, donc elle est très connue, elle aussi. Et puis, vous avez un gros coup de mou. À quelques semaines de jouer au théâtre, vous plantez tout le monde et vous partez faire le point plusieurs jours en thalasso dans un bled paumé. Là-bas, vous retrouvez complètement, par hasard, votre amour de jeunesse. Et là, le temps des questions, le temps de la remise en question, des mises au point aussi. Au centre de ce film, Guillaume Canet, c'est la grande question des choix qu'on fait dans la vie, c'est ça?
Oui, alors c'est plusieurs choses. D'abord, c'est pas vraiment un amour de jeunesse, parce que c'est 15 ans plus tôt.
C'était 15 ans plus tôt, voilà.
Donc comme il a 50 ans, voilà, je précise.
Mais 35 ans, c'est hyper jeune.
Ouais, c'est vrai aussi. Non, je précise que c'est vraiment pas moi. Autant Rock'n'Roll était une satire un peu de ma et une parodie. Enfin, je me suis amusé avec cette image que les gens pouvaient avoir de moi ou de nous.
J'entends beaucoup, pardon, je fais une petite aparté, mais j'entends beaucoup que Rock'n'Roll, pour plein de gens, c'est leur film préféré de vous.
Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment ce film, et c'est marrant parce que avec le temps, plein de gens qui l'ont pas vu le voient, et c'est un film qui reste beaucoup dans la tête des gens, et c'est un film que j'apprécie beaucoup. C'est un film qui parle des choix. C'est un film qui parle d'un homme qui effectivement a quitté cette femme il y a 15 ans, peut-être pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire se disant que il se rend compte que c'est peut-être pas la femme avec laquelle il faut qu'il reste s'il veut la vie de célébrité, de notoriété, enfin de succès qu'il a envie d'avoir. Et je pense que c'est un homme, en fait, ça, pour résumer, je pense que c'est un homme qui voulait devenir connu et qui va devenir quelqu'un, qui va vraiment devenir un homme, en fait, qui va se rendre compte de cette décision, qui va se perdre dans un chemin. Mais ce qu'il y a de beau dans ce que ça raconte, c'est que quand on se perd dans un chemin, c'est important à un moment de regarder au moins là où on est arrivé et de regarder autour de soi dans ce chemin, qu'on n'y soit pas allé pour rien.
Pour rien.
Voilà, et que du coup, on peut toujours faire demi-tour et revenir, il n'est jamais trop tard, et on a toujours appris quelque chose, et lui, il a appris quelque chose. Il a appris que d'avoir fait mal à cette femme, qui était peut-être la femme de sa vie, et il s'en rend compte, que finalement, ce à quoi il a aspiré pendant toutes ces années avec cette femme, une espèce de businesswoman très dure, il se rend compte qu'il n'est pas du tout
elle
heureux.
Elle est sévère,
il se rend compte qu'il n'est pas amoureux.
Elle est dure avec lui.
Qu'il n'est pas amoureux, qu'il n'est pas heureux. Et donc voilà. Et donc c'est.
Mais attendez, vous venez de dire quelque chose. Et d'ailleurs, on peut tous se projeter, se rendre compte que c'était peut-être la femme de sa vie et il l'a quittée. C'est hyper dur de se rendre compte de ça quand même dans la vie.
Ah bah oui, bien sûr.
Faut l'assumer après derrière.
Ah bah oui, c'est évidemment, bien sûr, mais c'est la vie, enfin voilà.
En tout cas, se rendre compte qu'on n'a pas fait ce choix pour rien.
Ouais, et puis on ne vit qu'une fois, donc, enfin, j'en sais rien d'ailleurs si on vit qu'une fois, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne vit qu'une fois, et c'est vrai que il est jamais trop tard pour se rendre compte des sentiments que l'on éprouve pour quelqu'un, et que c'est tellement triste. Et d'ailleurs, le film en parle très très bien quand on a ce témoignage de Lucette, qui est une femme dans le film, âgée, qui est dans une maison de retraite et qui raconte finalement aujourd'hui sa vie, qui raconte sa vie. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle aime une femme et qu'elle est qu'elle est amoureuse et qu'elle est enfin heureuse et que elle a accepté cette vie toute sa vie qu'elle a vécue avec son mari, mais où elle s'est mariée parce que finalement c'était.
On faisait un peu comme ça à l'époque.
Voilà. Ouais. Et ça raconte quelque chose de vraiment sur toutes les générations. Ça raconte quelque chose d'assez essentiel. Et d'ailleurs, en tournée province, j'ai fait plusieurs dates là. Et j'ai été assez étonné de voir le retour de beaucoup de jeunes, d'ados, et de 20, 25 ans qui sont vachement touchés par le film. Et j'ai l'impression qu'il y a une maturité aujourd'hui chez les jeunes, les ados et les un peu plus vieux, qui, je pense qu'avec la dureté aussi du monde qu'on leur laisse et ce à quoi ils s'attendent, il y a une sorte d'un peu de blues et de questionnement, en tout cas existentiel, assez fort. Je l'avais vu d'ailleurs sur mon film Lui, où j'ai eu des témoignages très importants de gens.
On va en parler aussi de lui.
Où je pensais vraiment pas que c'était un film qui pouvait s'adresser à cette génération-là. Et là, ce film-là touche aussi les jeunes, en fait, et c'est assez troublant.
Parlez-moi de votre duo avec Alice, oui. Alba Horvacher, celle qui joue donc cette amoureuse d'il y a 15 ans. Quand un film repose autant sur un duo comme ça, comment vous faites pour créer la complicité? Parce que là, elle est absolument merveilleuse hein, à l'écran.
C'est quelque chose d'assez assez magique et assez fou. À la première scène, à la première prise, de voir qu'on a en face de soi une très très grande actrice. Et là, c'est un bonheur en fait. C'est un bonheur parce qu'on...
Elle est fabuleuse.
Voilà, et puis ça renvoie chez vous aussi quelque chose de fort dans le partage, dans le jeu. Et du coup, on joue mieux. On joue mieux, je pense.
C'est vrai.
Je pense que c'est comme.
Mais avec la carrière que vous avez, quelqu'un, il y a encore un acteur ou une actrice qui peut vous aider à jouer mieux.
Évidemment, bien sûr. Je peux vous citer des films dans lesquels j'étais vraiment pas bon.
Allez-y.
Vidocq, entre autres.
Je ne juge pas.
Mais c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à tourner avec elle. Et puis il y a quelque chose de. Ouais, de magique, je trouve que peut-être son accent, ce que ça raconte par rapport à ce personnage, ça renvoie aussi, comme je le disais, au film de Sauté. Moi, elle m'a fait penser à Romy Schneider dans César et Rosalie. Il y a plein de choses. Il y avait un charme fou. Et elle était marrante parce qu'elle avait tout le temps peur de pas être comprise avec son accent.
Ce qui n'est absolument pas le cas. Hein.
Non, on la comprend très bien.
Et puis c'est même très agréable à écouter.
Très sensuel. On a été très, très complices, c'était très, vraiment très chouette.
Sans en dire trop, il y a notamment cette scène, je rappelle que vous êtes donc en thalasso hein, pour réfléchir et que vous faites des soins. Et donc une scène, vous mettez des jambières. Alors j'essaye de bien expliquer pour nos auditeurs. Donc c'est une espèce de grosse jambière qui se met sur chaque jambe et qui se gonfle et se dégonfle. Alors j'imagine que ça favorise la circulation. Je sais pas.
Ça fait ça. Ouais. Sauf que moi on l'a tourné pendant une heure et demie. Et j'avais la tête qui tournait au bout d'un moment parce que je pense que ça m'envoyait trop de sang à la tête.
Franchement, ça vous met dans une position pas. Hyper à votre avantage.
Non, ça c'est sûr. Mais il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
Il y a un film où je pense pas que ça soit le film dans lequel je puisse être vu comme.
Ça vous rend attachant en tout cas. Mais l'autodérision, comment on gère dans un film comme ça ces scènes
Moi j'adore ça. Moi, ouais. Moi j'ai toujours.
Rôle un peu humiliant. Quand j'ai vu le film, la salle était assez remplie et ça rit, mais ça rit de vive voix. Hein.
Ouais.
Donc ce film est à la fois, assez dans l'introspection, il est assez mélancolique, mais très drôle aussi en fait.
Ouais, mais parce que c'est toujours ces moments-là de la vie qui sont toujours assez surréalistes. C'est-à-dire que quand on n'est pas en totale dépression, mais qu'on est dans un moment émotionnel un peu, on est un peu fragilisé. Il y a des moments où on se retrouve dans des situations totalement grotesques. absurdes et qui peuvent nous faire rire parce qu'elles sont complètement décalées, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce type qui se retrouve avec des masques, des trucs, alors que il est pas bien, et on vient lui demander des selfies alors qu'il est allongé sur une table de massage et que là, je lui demande un
et puis c'est maintenant, c'est pas
oui, oui, parce qu'après, elle pourra,
après,
plus.
Elle pourra plus.
Et donc,
vous avez vécu ce genre de scène?
Oui, j'en ai vécu plusieurs.
Ouais. Comment vous les avez vécues? Dur? Pas des moments agréables?
Non, c'est des moments toujours un peu surréalistes. Moi, je me rappelle par exemple d'une période que j'ai passée à l'hôpital après un staphylocoque d'oreille et où je me réveille à un moment par un flash, parce que c'était à l'époque de ne le dire à personne, où il y avait encore des téléphones avec des flashs, et c'était la femme de ménage de l'hôpital qui m'avait pris en photo. J'étais... les parties à l'air, si je peux dire, en restant poli, avec cette espèce de blouse, avec les jambes écartées comme ça, avec la bave, fatiguée, avec les perfs, comme ça allongé, j'ouvre les yeux, elle est en train de me prendre en photo, donc j'imagine aussi avec mes glinges au premier plan. Et j'ai dit, mais on peut pas faire des trucs comme ça.
Ouais.
Elle me dit, mais c'est pour le souvenir. Et j'étais complètement atterré de voir qu'elle m'avait pris en photo dans cet état-là, en fait.
C'est plutôt chouette, la notoriété, mais c'est pas toujours drôle.
Non, c'est plus chouette. Il y a quand même beaucoup plus d'avantages que ces petits inconvénients qui sont pas si graves.
Et qui, finalement, quand on en discute après, on en rigole.
Ouais.
Quand votre personnage dit à un moment donné, finalement, je ne suis qu'un type banal. Alors ça c'est une phrase importante. Ça sent...
Ouais.
Alors, vous êtes un très bon acteur, mais ça sent vraiment le vécu. Il y a cette crainte, Guillaume Canet, chez vous, et là, c'est à vous que je pose la question.
D'être un type banal?
Finalement, qu'un type banal?
Alors, moi, j'ai qu'une seule envie dans ma vie, c'est d'être un type banal.
Ah.
Moi, j'estime, et j'ai l'impression, en fait, que pour être acteur et pour pouvoir jouer des rôles, il faut être dans la vie de tous les jours et il faut être un type normal. En fait, je pense que quand on atteint des sphères à un moment qui sont un peu trop éloignées de la conjoncture, de la période, de la vie dans laquelle, dans la société dans laquelle on vit, je pense qu'on n'est plus du tout à même de retranscrire et de faire vivre un personnage. La force de ce métier, c'est d'observer, c'est de ressentir les choses et de pouvoir les retranscrire après à l'écran. Donc moi, j'ai pas envie d'une vie de star. J'en ai jamais voulu. D'ailleurs, j'ai jamais organisé ma vie autour de ça. Vous m'avez jamais vu dans une voiture de sport arriver dans des soirées du métier. J'y vais de temps en temps quand je suis obligé d'y aller.
Imagine quand c'est pour des gens que vous aimez particulièrement.
Oui, voilà. En tout cas, c'est à chaque fois, c'est pas quelque chose que je fais avec grand plaisir. Et je suis quelqu'un de plutôt discret sur ma vie privée. Je cherche pas cette notoriété. Je l'ai jamais cherché, en fait.
Et c'est difficile, ce choix de vie, de rester discret, de pas participer finalement à tout l'aspect paillettes.
Non, ce qui est difficile, c'est quand les choses vous échappent.
Un boulot du quotidien.
C'est quand les choses vous échappent, c'est quand les gens s'immiscent dans votre vie et viennent voler des moments de votre vie, comme ça m'est arrivé de me retrouver chez les gendarmes, parce que le jour de la naissance de mon fils, un type rentre chez moi pour prendre des photos. Et c'est quelque chose qui me rend fou à ce moment-là. Donc oui, ces moments-là, ils sont difficiles, parce que c'est des moments qu'on vient vous voler et que vous n'avez pas du tout envie de partager. Et vous estimez que vous pouvez vous donner déjà beaucoup dans ce métier. On donne beaucoup. Si on n'a pas des petits moments pour se nourrir de son côté, c'est pas possible.
Dans ce film, hors saison, il y a aussi une grande place pour la désillusion. La vie est malheureusement aussi parfois faite de désillusions. Vous, les moments de désillusion, comment vous les gérez? Ils vous nourrissent?
Ouais, ils me nourrissent. C'est pour ça que j'ai jamais rien regretté dans ma vie, franchement, même les mauvais choix. Parce que j'estime à chaque fois apprendre vraiment quelque chose. Et bizarrement, j'ai l'impression à chaque fois que ça me rend vraiment plus fort, en fait. Je suis quelqu'un de très sensible, donc forcément à chaque fois ça me touche, ça m'atteint, mais je me rends compte jusqu'à présent que je tiens le coup quand même, que j'arrive quand même à chaque fois à remonter la pente. Alors des fois c'est plus difficile que d'autres, mais globalement, je pense que c'est important aussi d'avoir des désillusions, parce que ça... ça donne la foi, je trouve. Ça donne l'envie, ça donne... Je pense que si on avait toujours tout, on serait blasé, en fait. Et dans ce métier, je pense que quand on travaille sur un film pendant 3, 4 ans, 5 ans, qu'il faut se réveiller tous les matins avec cette envie de travailler dessus, malgré les critiques, malgré l'angoisse, l'anxiété de se rater, il faut quand même avoir beaucoup d'envie, quoi. Et la désillusion, elle permet ça aussi. Elle permet aussi de se dire « Ok, j'ai raté là, mais je vais me reprendre, quoi. » Et je pense que l'échec est quelque part extrêmement important, je pense, dans la dimension artistique, dans la création. Je pense que je vois pas, je connais pas un artiste qui a pas échoué sur des choses et que ça l'a rendu plus fort, en fait.
Dans les zones d'ombre, il y a toujours des grandes failles. Et c'est ce qui fait aussi les grands destins.
C'est l'histoire de Marvin Gaye.
C'est exactement ce qui fait aussi les grands destins.
Alors qu'il est en perdition totale à Ostende, en Belgique, dans Camé, et qui, tout d'un coup, a une renaissance et qui écrit cet album sublimissime, quoi.
Stéphane Brisé dit de vous. Vous êtes prêts?
Ouais.
Ce qui résonne en moi, chez Guillaume Canet, c'est son infinie mélancolie. Je l'ai toujours ressenti comme un homme profondément triste, avec beaucoup de talent pour le dissimuler. Ça me touche énormément. Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord, je ne sais pas, c'est son sentiment.
Vous le prenez bien, alors?
Je le prends bien, oui, ouais. Oui, bien sûr, je le prends bien. C'est son sentiment,
c'est, doux, hein,
c'est ce qu'il ressent. Mais je pense qu'il y a une part de vérité, en fait. Je pense qu'il y a une part de vérité. Je crois aux âmes, en fait. Je crois au potentiel et à la mémoire génétique que l'on a quand on naît. Et on peut naître avec une histoire derrière. Et on le sait, d'ailleurs. Il y a des études génétiques extrêmement intéressantes.
Absolument.
Là-dessus, sur comment, de génération en génération, les choses se transmettent.
Des histoires se transmettent, oui.
Et c'est vrai que... Et des schémas se reproduisent. Et c'est vrai que ça, par exemple, je sais pas d'où ça vient forcément dans ma vie, mais je pense qu'il y a une part de mélancolie, de... Voilà, mais qui m'a fait beaucoup avancer dans ma vie aussi et qui m'a permis aussi de faire toutes les choses que j'ai faites. C'est-à-dire que je pense que ce que j'apporte, par exemple, dans Ne le dis à personne, en écrivant l'adaptation, c'est peut-être aussi un peu de ma mélancolie et aussi un peu de cette part d'émotion que j'ai envie d'y ajouter. Les petits mouchoirs, pareil. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été en moi pendant longtemps et que je retranscris de manière consciente ou pas à travers mon travail.
Je continue avec les mots de Brisé. Guillaume est un être bien plus complexe que ce qu'il semble peut-être être.
Oui, ça c'est sûr.
En quoi?
Les gens qui vivent dans mon entourage le savent. Je sais pas en quoi, mais je pense que oui, je suis assez complexe parce que je suis quelqu'un de très entier. Je suis quelqu'un de droit. Et j'aimerais qu'on le soit avec moi. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas,
en tout cas.
Voilà, et quand c'est pas le cas, j'ai pu avoir tendance pendant des années à m'en plaindre. Ou alors à râler, à en être malheureux, et du coup à culpabiliser ou juger les gens. Et si c'est ça, être complexe, peut-être que je l'ai été. Maintenant, j'arrive à un âge où je pense que j'ai plus de temps à perdre. Et non pas que je pense que je vais mourir demain, mais en tout cas, j'ai plus envie de perdre du temps. Voilà. Avec des considérations comme ça, et avec des mensonges, avec la manière de se comporter avec moi, des choses qui me conviennent pas. Et du coup, ça m'a fait grandir, en fait, cette période-là, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas en droit de juger les gens, en fait, de juger leur comportement. Et si à un moment j'estime qu'ils sont toxiques pour moi, bah, c'est à moi de m'en aller, en fait. C'est pas à moi de vouloir absolument changer les gens. Et donc, du coup, bah, j'ai fait un peu de ménage. Donc, les gens me trouvent moins complexe. Et moi, je me sens vachement mieux.
Vous avez gardé que ceux qui sont en face.
Ça arrange tout le monde.
Ça m'amène parfaitement. Et après, je vous laisse tranquille avec les mots de briser, mais ceux-là, je les aime bien aussi. Le temps qui passe, lui, va bien. Comment vous le gérez, ce temps qui passe? Ces 50 ans, ils vous font quoi, Guillaume Canet?
Moi, j'aime bien l'idée de mûrir, de vieillir. J'aime bien l'idée de mûrir psychologiquement. J'ai l'impression, franchement, que je m'apaise, que je...
Ça vous a fait peur un moment? Ça vous a inquiété?
Jamais. Non, ça m'a jamais fait peur de vieillir, ni physiquement, ni psychologiquement. Aujourd'hui, ça me fait plus peur physiquement. Parce que, non pas par rapport à l'aspect, tout ça, j'ai pas de soucis par rapport à ça.
Par rapport à la santé, par rapport à la forme.
Mais ouais, par rapport à la forme. Ouais. C'est-à-dire moi j'ai fait beaucoup de sports à la con, hein, on peut le dire, c'est-à-dire des sports dangereux, entre l'équitation, la motocross, paramoteur, enfin plein de choses où je me suis beaucoup fait de fractures, donc je suis un peu cassé de partout. Donc là aujourd'hui, à une semaine, je peux vous dire la météo à peu près, vous voyez, au niveau des douleurs. Donc c'est ce vieillissement-là qui ne m'arrange pas du tout. C'est que j'ai pas envie de marcher en crabe dans 10 ans, quoi. Voilà, donc...
On note bien sûr.
Je m'entretiens de plus en plus maintenant, mais c'est pas... c'est la seule chose. C'est la seule chose, c'est le vieillissement du corps.
Vous parlez des sports à la con, vous continuez quand même, puisque l'équitation est toujours dans votre vie. Alors...
Ouais, mais ça, je pourrais jamais m'arrêter de faire des trucs à la con comme ça, parce que j'ai besoin d'adrénaline, j'ai toujours...
C'est quoi le plaisir aujourd'hui dans l'équitation, dans le saut? Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, même si c'est quand même assez sûr, hein, que vous êtes très doué dans le saut d'obstacle.
C'est le rapport à l'animal déjà, évidemment, au cheval... Et puis effectivement, la compétition à haut niveau, la petite appréhension qu'on a aussi avant de rentrer sur une piste avec des grosses barres, avec voilà, et puis tout ce que j'ai pu faire comme sport comme ça qui amène une certaine adrénaline, et je pense que ça m'amène ailleurs, en fait. Ça m'amène à, pendant quelques minutes, secondes, ça m'amène ailleurs de mon quotidien, et ça me fait lâcher beaucoup de tension aussi, et on se sent foncièrement vivant. Je me rappelle de mon premier vol en paramoteur où quand ça faisait 3 jours que j'apprenais, à un moment il fallait juste appuyer sur l'accélérateur et décoller, et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Et après, quand je me suis posé, je me suis dit, ok, je sais pourquoi j'ai fait ça, parce que tout d'un coup j'ai eu un shoot d'adrénaline énorme.
On peut le trouver, ce shoot d'adrénaline, dans des trucs un peu moins dangereux.
Oui, c'est vrai. Mais peut-être que je vais les trouver au fur et à mesure. Tout en vieillissant, je vais peut-être trouver
avec
cette adrénaline en jouant au tennis ou en faisant de la pétanque. Voilà, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est ça.
Vous étiez promis à une grande carrière sportive. Hein.
Ouais.
À un moment donné, vous espériez, j'imagine, devenir champion... en équitation, dans le saut d'obstacle. Vous avez déjà raconté ça, mais je le rappelle, cette chute à 14 ans avec votre première jument, un trauma, puis une grosse blessure en compétition qui vous met en dehors du circuit. À quel moment, puisqu'on parle aussi des choix aujourd'hui avec ce film de Stéphane Brisé, à quel moment vous avez vraiment fait le choix de passer de l'équitation à l'acting?
À ce moment-là, en fait, il y a eu à 18 ans cet autre accident qui était là pour le coup assez grave, où je me suis pris du cheval sur
vous.
Moi.
Ouais.
Il s'est relevé sur moi, donc j'avais les trous de crampons dans le dos, dans la main, je me suis pété tout le côté droit. Et là, je me suis dit que j'allais... Ça faisait quelques années déjà que je faisais des petits films à la maison, comme ça, en Super 8, avec la colleuse dans ma chambre, avec la caméra vidéo. Et j'étais fasciné par la réalisation. Et c'est là, en fait, que J'avais eu effectivement à 14 ans quand j'ai perdu ma jument de concours, j'avais eu un vrai choc émotionnel à devoir l'euthanasier alors que mes parents étaient pas là, j'avais dû prendre la décision, ce qui est à 14 ans hyper dur d'avoir le droit de vie ou de mort sur un animal. Mmh. Et du coup, je m'étais dit je deviendrai cavalier professionnel pour elle et tout. Et puis bon, voilà, on grandit et puis on se rend compte que finalement aller faire 400 bornes tous les week-ends pour faire tomber une barre, des fois c'est un peu frustrant. Et puis on croise toujours les mêmes personnes, c'est un milieu quand même qui est très fermé. Un peu un milieu de cirque, hein, parce que d'ailleurs moi j'ai travaillé dans un cirque à l'âge de 16 ans, c'est un peu ça en fait. On passe de village en village, enfin de ville en ville, tous les week-ends, avec les mêmes personnes avec lesquelles on concourt. Et c'est un peu un milieu un peu fermé au bout d'un moment, quoi. Donc j'avais envie d'ailleurs, et je suis parti à Paris... à l'âge de 17-18 ans et j'ai voulu voilà me lancer dans ce métier donc j'ai fait des petits boulots, j'ai fait tout ça, mais ça a été vraiment un truc, la fracture, c'est le cas de le dire, enfin cet accident a été vraiment un truc de dire, de prendre comme un signe et de dire ok stop, je suis pas fait pour ça.
Double sens, la fracture
de ouais,
corps, mais
ouais. Et de me dire je suis pas fait pour ça, c'est pas
avec une vie, quoi,
c'est pas le métier que j'ai envie de faire en fait.
La vie est structurée par des rencontres. Il y a eu celle avec Jean Rochefort, qui était très importante pour vous. Mmh. Quel acteur qui a si bien traversé les générations. Ouais. Quel regard vous avez sur lui aujourd'hui, Guillaume Canet?
Bah, il me manque énormément. Je pense très souvent à lui. Mmh. J'ai souvent sa voix que j'entends. Ses appels, souvent le dimanche soir, me manquent. Il m'appelait souvent le dimanche soir. Après... quand il y avait un film qui sortait, il m'appelait pour... il me dit « Chonchon ». Il m'appelait Chonchon et il me disait « Je viens au rapport ».
Oh, comme quoi.
Et « Je viens au rapport » et il me disait... et il me racontait son sentiment sur le film que j'avais fait et son avis. Voilà, et c'était toujours très très intéressant parce que...
C'était pas tout.
Il y avait des moments très positifs et puis il y a des moments ils ont dit « Non, tu t'es pas cassé ». Et il pouvait être très critique, mais c'était toujours avec beaucoup de bienveillance. Et il avait, voilà, un regard sur mon travail. Et je me rends compte du temps qu'il a pris pour moi. Et je trouve ça très touchant, parce qu'aujourd'hui, je vois ma position que j'ai. Et je vois que...
Vous pourriez faire pareil pour quelqu'un?
J'ai un rapport avec un jeune acteur qui s'appelle Anthony Bajon que vous connaissez,
oui,
que j'aime beaucoup beaucoup. Il a joué mon fils dans Nom de la Terre. Je sais pas si c'est ce qui nous a rapprochés, mais en tout cas, j'ai envie de le suivre. On se parle de temps en temps. J'ai coproduit son court-métrage, mais je l'appelle pas autant que Jean pouvait m'appeler. Donc c'est là que je prends la mesure de l'attention et de la bienveillance que Jean avait pour moi, en fait.
Qui sont vos piliers aujourd'hui?
Mes enfants. Je trouve que souvent on prend des piliers plus âgés qui vous tiennent. Moi, j'ai l'impression que c'est très intéressant aussi de tenir avec le regard de Jean plus jeune,
Thibaut, ouais.
Qui ont une vision tellement sharp sur le monde, sur la vie, sur qui vous êtes, avec un don de médiumnité assez hallucinant et de capacité à... Et puis je parlais du mensonge, c'est des gens à qui on ne ment pas, les enfants.
Pas mentir, ouais.
En fait. Donc il y a un rapport extrêmement fort. Et c'est vrai que, ouais, ce sont ce qui motive aussi beaucoup dans la vie, en fait.
Donc de vrais piliers.
Ouais.
S'ils étaient là, vous en avez deux, qu'est-ce qu'ils diraient de leur papa? Si je leur demandais comment vous décririez votre papa, à votre avis, qu'est-ce qu'ils diraient?
Écoutez, franchement, je sais pas si j'en crois simplement les dessins qu'ils me font souvent ou les témoignages d'amour. Je pense que je suis un... Je sais pas, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, il me dit souvent que je suis un très très bon papa.
Un très très bon papa.
Ouais.
C'est ça c'est top. Vous avez été pendant une période au cinéma plutôt un mec de bande, on pense au petit mouchoir, pour passer à une vie, on en parlait tout à l'heure, de rock'n'roll ou de lui, plus de mec solitaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Le mec de bande ou le mec solitaire?
Non, c'est fini les bandes. Non, j'ai des très très bons amis.
Merci, c'était sympa, mais vraiment, je peux plus vous voir.
Non, ça n'a rien à voir. Ah non, mais je parle même pas des petits mouchoirs ou tout ça. Je parle du
de
fait
la gestion.
Que... Ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est l'investissement, en fait. C'est que des fois, on s'investit beaucoup, justement, pour des choses et pour des gens et créer une synergie et un groupe. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en fait, on se rend compte que les gens mènent quand même beaucoup aussi leur barque et c'est normal. C'est pas du tout un jugement hein, que je et les gens au moment n'ont plus envie aussi d'être assimilés à cette bande et ce qui est totalement compréhensible. Et du coup, je pense que j'ai pris plaisir aussi à un moment à me retrouver avec moi-même aussi. Et ça, c'est vraiment agréable et de pas être, de faire les choses aussi un peu pour moi. Voilà.
Du Covid est né, vous en parliez tout à l'heure, ce film, lui, qui a fait, je vous cite, sortir le connard de vous-même.
Oui.
Vous êtes passé donc comme par une petite dépression. Le mot est OK?
Non, je dirais pas une dépression, mais une fulgurance en fait. Ça a été ce film, ça a été vraiment une fulgurance. C'est-à-dire que je me suis réveillé un matin. Et sans aucune explication, je suis descendu. C'était matin très tôt, maison dormait. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit lui.
Ouais.
C'est trois lettres, mais réellement, ça pourrait être
LUI.
Voilà, ça pourrait vraiment être un débarras de bouquins ou de films mauvais. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ces trois lettres lui et j'ai commencé à m'adresser à cette personne, c'est-à-dire ce connard, comme je l'appelle, qui m'a habité pendant très longtemps, trop longtemps, et qui me tirait vers le bas, qui me faisait de moi cette personne insatisfaite tout le temps, très dur avec moi-même, très exigeant. Et j'avais besoin à un moment de m'adresser à lui, en fait, en disant, mais à un moment, il faut que tu me laisses vivre, quoi. Il faut que tu me laisses avancer dans ma vie, et tu peux pas me tirer vers le bas comme ça, constamment. Et puis je savais pas du tout où ça allait me mener. Je pensais après que ça allait peut-être être une pièce de théâtre. Et puis finalement c'est devenu un film où j'ai rajouté des choses. Encore une fois, je précise parce que les gens ont tout mélangé en pensant que je parlais de mes histoires amoureuses, ce qui n'est pas le cas.
Allez-y, vous l'avez fait, mais si vous voulez refaire une fois.
Mais
c'est une fiction.
Oui, c'est totalement une fiction, mais dans laquelle j'ai pu parler de ce double. Et je trouvais qu'en plus l'exercice cinématographique au niveau du style était intéressant de jouer les deux personnages et tout. Et donc voilà, c'est devenu un film. Mais j'aime vraiment foncièrement ce film parce que effectivement, ça a été une fulgurance. Je l'ai écrit en 3 semaines, je l'ai tourné en 4 semaines et ça a pas été une dépression, mais je pense que ça a été une vraie analyse pour le coup.
Le connard, il est plus là.
Non, il est plus.
Il est vraiment parti. Il est dead.
Non, ça. Des fois, il repointe un petit peu. Je lui donne des coups en disant casse-toi.
Dans Hors Saison, c'est ma dernière question. Dans Hors Saison, sans tout dévoiler, les deux personnages ont l'audace de se parler, d'affronter leur histoire, de régler avec douceur, je trouve, des comptes pour en ressortir grandi, je crois. Qu'est-ce qui, vous, dans la vie, vous a rendu le plus meilleur, Guillaume Canet?
Ce que je disais tout à l'heure, je pense les échecs, les remises en question, en fait, c'est très important de se remettre en question, d'avoir du recul sur qui on est, pourquoi on réagit de telle manière, pourquoi certains moments de notre vie nous rendent très nerveux, très angoissés, pourquoi on a ces choses-là et on se rend compte que souvent c'est lié à des vieilles patterns, des choses.
On passe tous par ça en plus.
Bien sûr, mais après on passe tous par ça, mais on n'est pas forcément tous à l'écoute.
Égaux dans la réaction.
Ouais, et à l'écoute de ça et d'avoir envie à un moment de se remettre en question. C'est pas facile de se remettre en question et d'accepter des tares que l'on puisse avoir. Enfin voilà, c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est ça qui me rend meilleur, c'est de temps à autre d'essayer d'avoir une vision et d'avoir de prendre un peu de recul sur ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, et voilà, ouais.
Hors saison de Stéphane Brisé avec vous et ouais. Alba Rohrwacher, c'est ce mercredi 20 mars dans les salles. On note bien sûr la magnifique musique de Vincent Delerme pour parfaire ce mélange de mélancolie et d'humour. Merci Chanchon.
Merci.
Merci Guillaume Canet. Merci. À bientôt sur RTL.
Merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel sur et avec Guillaume Canet. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Réalisation signée Dany Matouk, texte de Thomas Pierre et programmation de Marie Conqui. Sachez que tous les épisodes de Confidentiel sont disponibles en podcast. N'hésitez pas, c'est sur l'appli RTL ou sur RTL.fr.
RTL. Confidentiel.
Confidentiel.